Donc, j'espère que vous avez votre Bible aussi pour suivre, parce qu'on va voir pas mal de versets bibliques, puisqu'on va s'attarder sur ce que la Bible dit au sujet de la fin du monde. Ça tourne là-bas, l'enregistrement? Très bien. Que dit la Bible sur la fin du monde? L'idée que notre monde va avoir une fin est aussi vieille que les civilisations humaines. Depuis que le monde a commencé, on parle de sa fin. Mais il faut reconnaître que c'est la Bible qui parle le plus de la fin du monde. Et non seulement elle en parle, mais elle donne pas mal de précisions sur cette fin du monde et d'explications. Dans ce message, j'aimerais justement regarder et étudier avec vous ce que la Bible dit sur la fin du monde. Je ne vais pas m'attarder sur les théories humaines, car il y a énormément de spéculations, même au sujet de la Bible et de ce qu'elle enseigne. On va s'arrêter sur les paroles de Jésus-Christ, sur les paroles de Dieu, des prophètes, sans spéculer. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Elle est la révélation de Dieu. D'ailleurs, le mot apocalypse signifie en grec révélation. Apocalypse, ça ne veut pas dire cataclysme. Ça veut dire révélation. Et le dernier livre de la Bible signifie révélation de Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus-Christ révèle ce qui va se passer à la fin de toutes choses. Comment Dieu va triompher du mal. J'aimerais répondre à plusieurs questions. Je ne pourrais pas tout traiter sur la fin du monde, il y aurait beaucoup à dire, mais voici les questions que j'aimerais traiter ce soir. Notre monde va-t-il aller en s'améliorant? Première question. La Bible décrit-elle en détail la fin du monde? Deuxième question. La Bible donne-t-elle une date de la fin du monde? Troisième question. Que dois-je faire pour me préparer à la fin du monde? Alors, la première question, notre monde va-t-il aller en s'améliorant? Lorsqu'on regarde l'histoire des civilisations, on voit qu'il y a un certain nombre de cycles. Les civilisations montent, et puis elles arrivent à une apogée, et là, la décadence commence, la corruption morale, spirituelle, et la civilisation descend. En général, il y a des guerres en haut, en bas, dans toutes les parties du cycle, et puis quand une civilisation s'est effondrée, une autre naît à sa place, et donc on a un cycle comme ça, de montagnes russes. Mais est-ce qu'un jour, le cycle va s'arrêter? Est-ce qu'un jour le monde va aller vraiment le plus bas possible? Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que le monde n'est pas promis à un avenir meilleur, surtout pas l'humanité. Le Seigneur Jésus, en Luc 18, verset 8, annonce ceci. « Quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire quand lui-même, le Messie, reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cette question? C'est-à-dire que lorsqu'il va revenir, il y aura très très peu de croyants sur la terre comparativement à la population. La foi en Dieu, la foi en la Bible aura presque disparu, emportée par une vague de séduction et d'apostasie. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, l'apôtre Paul écrit ceci. « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Cette prophétie annonce que plus le temps passe vers la fin du monde, plus les hommes ferment l'oreille à la vérité, ne veulent pas entendre parler de la vérité de Dieu. Et donc, ils se donnent par contre plein d'enseignants qui leur disent des fables et des choses agréables qui les flatte, qui les garde dans une illusion terrible et mortelle. La Bible annonce aussi que la chrétienté elle-même va aller en se corrompant. En 2 Thessaloniciens chapitre 2, je lis ceci, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant le retour de Christ. » Qu'est-ce que c'est l'apostasie ? C'est un mot qui veut dire s'écarter de la vérité révélée, justement, de la foi révélée dans la Bible. L'apostasie, c'est pour les chrétiens, c'est lorsque l'Église va quitter la foi en Jésus-Christ. Lorsque l'Église va quitter la Bible, va devenir complètement apostate. Jésus l'avait dit, hein, le levain, un jour, fera lever toute la pâte. Et dans la Bible, le levain symbolise la corruption, l'erreur, le mensonge. La Bible prophétise un refroidissement planétaire. Aujourd'hui, les météorologues craignent le réchauffement planétaire. Ils disent que la température augmente sensiblement, les pôles sont en train d'être modifiés parce que la glace fond. Il n'y a plus de saison, comme on dit chez nous. Les hivers sont de plus en plus doux, les étés de plus en plus caniculaires, il y a des cataclysmes, des tornades, des tempêtes de plus en plus nombreuses. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'il y aura un refroidissement planétaire des cœurs humains. Jésus dit en Matthieu 24, 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire ? C'est que plus la corruption augmente, plus l'amour, bien sûr, du prochain diminue. Ça va devenir de plus en plus la loi de la jungle, c'est-à-dire chacun pour soi. On sera tous en mode survie. Et si je ne veux pas mourir, je dois tuer les autres. Hein. C'est ça la loi de la jungle. Et dans ces conditions-là, l'amour, bien sûr, diminue beaucoup. Le pardon, la solidarité, la charité, tout ça diminue. Et Jésus le prophétisait déjà de son temps. Et même, la Bible va plus loin dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3. Nous lisons cette description de l'humanité à la fin des temps. Et franchement, si vous la collez avec notre monde, vous trouvez qu'elle est très proche. 2 Timothée chapitre 3. « Sache que dans les derniers jours, donc dans les derniers jours du monde, il y aura des temps difficiles, des temps périlleux, des temps dangereux. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Dans cette description, on remarque plusieurs choses. D'abord, le top 50, là, les premiers éléments de l'humanité, ils seront égoïstes, amis de l'argent. Voilà les deux premiers éléments de l'humanité. On s'aimera soi-même et on aimera l'argent. Tout le reste passe après. Ma famille, mes enfants, mes amis, l'humanité, tout passe après, moi et mon argent. C'est l'individualisme extrême et l'amour extrême de l'argent. L'amour de l'argent a toujours existé, hein. Les hommes ont toujours cherché à s'enrichir. Mais aujourd'hui, avec le système de la finance et avec l'individualisme grandissant, on a les deux combinés parce que l'individualisme n'a pas toujours été de mise dans les civilisations du passé. Il y avait beaucoup, au contraire, d'esprit de famille ou d'esprit de groupe. Mais l'Occident, particulièrement, est très centré, hein, chacun pour soi. Moi d'abord, les autres après. Un pour tous, tous pour moi. Et puis, il y a des mots là qui frappent, rebelles à leurs parents, cruels, insensibles. L'homme est toujours le même, il est toujours aussi cruel, insensible. Il y a des crimes abominables, même on ne peut pas imaginer à l'avant comment un être humain peut faire des choses pareilles à un autre être humain. Aimant le plaisir plus que Dieu, ça s'appelle l'hédonisme, la recherche du plaisir à tout prix, même si on doit perdre son âme, même si on doit se corrompre et se dévaluer complètement, on est prêt à sombrer, à se donner au plaisir, à s'adonner au plaisir, plus que Dieu. Et là, on remarque encore une fois que la foi est en train justement hein, de disparaître, qu'à la fin des temps, la foi disparaît et que le plaisir égoïste prend la première place. Quand c'est dit comme ça, on se dit oui, c'est agréable de se faire plaisir. Mais quand vous imaginez le monde où chacun cherche son propre plaisir, vous avez un enfer sur terre. Parce que mon plaisir, c'est forcément au détriment de l'autre. La pornographie est au détriment des femmes. Et ou des petits-enfants qui sont violés aussi, hein. Le plaisir égoïste et animal des êtres humains mène forcément à la destruction d'autres êtres humains, d'autres vies. Et l'enfer sur la terre existe d'une certaine façon lorsque c'est la loi de la jungle, lorsqu'on a peur, on ne peut plus faire confiance à personne, on ne sait plus, on n'ose plus sortir, on n'ose plus se confier ni aimer quelqu'un de peur d'être maltraité. La Bible continue pour dire comment va aller le monde vers la fin des temps. Je lis dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 que les hommes seront moqueurs envers Dieu. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Donc la moquerie fera partie aussi de cette société de la fin des temps et où on se moque de tout, on devient complètement cynique, c'est-à-dire plus rien n'est sérieux, plus rien n'est grave, plus rien n'a d'importance. C'est encore une fois mon plaisir avant tout, et surtout je me moque de Dieu, de sa parole, de ses promesses, je me moque du jugement de Dieu. Combien de fois ai-je entendu des gens dire « Oh, mais moi je serais content d'aller en enfer, et puis si, quand je comparaîtrais devant Dieu, je lui dirais combien il s'est trompé. » Cet esprit augmente de moquerie, d'orgueil absolu, de penser qu'on va pouvoir dire à Dieu ce qui ne va pas. Et puis aussi, la Bible annonce qu'il y aura de nombreux faux messies à la fin des temps. En 1 Jean 2, verset 18, je lis: Petits enfants, c'est la dernière heure. Et Jean attendait justement cette dernière heure de l'humanité. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist va venir, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'un jour, la Bible annonce qu'il y aura un antéchrist à la fin des temps qui se fera passer pour Christ. Parce que antéchrist, ça veut dire qui prend la place de Christ. Ça veut aussi dire qui est en opposition à lui, hein, mais c'est qui se fait passer pour Christ. Mais il dit aujourd'hui déjà, il y a des précurseurs des antéchrists. On peut déjà d'ores et déjà penser aux dictateurs qu'on a connu au XXe siècle, que ce soit Staline ou Hitler, c'était des sortes d'antéchrists, puisqu'ils s'opposaient directement à Dieu, ils se prenaient pour Dieu, et ils ont anéanti des pans entiers de la population humaine, hein. Ils ont tué à tour de bras des millions de personnes, ou ils sont responsables en tout cas de leur mort. Les antéchrists sont déjà là, il y a déjà des faux messies. Il y a dans le monde 150 personnes qui prétendent être Jésus-Christ, le Christ. Le plus connu, c'est Moon, qui est encore en vie. Moon, c'est cet homme qui a dit, il est apparu sur le monde des sectes, que Jésus-Christ avait échoué dans sa mission, puisqu'il avait été crucifié, et que Dieu l'avait appelé à réussir la mission que Jésus avait échouée. Et donc, Moon se prétend être le successeur de Jésus et donc de réussir là où Jésus a échoué. On voit l'orgueil, on voit bien sûr la contradiction, la rébellion avec la Bible. Et Moon a vraiment a mis en place une organisation sectaire très vaste, très puissante, très riche, avec un endoctrinement de ses membres. Heureusement, il a été dénoncé de nombreuses fois et il a moins d'influence. Mais de temps en temps, il organise un mariage en Corée ou en Chine avec des milliers de couples dans un stade qui se marient le même jour sous son égide, subjugués par ce faux Messie. La Bible dit aussi que plus le temps va passer vers la fin, plus les hommes vont s'endurcir contre Dieu. Dans l'Apocalypse, au chapitre 9, verset 20, je lis « Les autres hommes qui ne furent pas tués par les fléaux, parce que l'Apocalypse annonce un certain nombre de fléaux venant de Dieu, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. » On voit qu'il y a une catégorie de l'humanité à la fin du monde qui va être complètement endurcie, c'est-à-dire plus rien ne pourra les ramener à Dieu. Les pires fléaux qui vont s'abattre sur la terre, au lieu de briser leur cœur et de les amener à se repentir, vont au contraire les endurcir. Ils vont dire « C'est de ta faute, c'est toi qui nous envoies ces jugements. » Et vous savez, ça commence déjà. Lorsque Dieu permet qu'il y ait quelque chose de tragique qui arrive dans la vie de certaines personnes, qui sont des tremblements de terre qui vous secouent et qui vous amènent à réfléchir. Lorsque Dieu permet ces choses dans votre vie, certains réagissent très mal. Et pourquoi Dieu m'en veut à ce point? Pourquoi il m'envoie que des malheurs? Et ils tournent le dos et ils s'endurcissent dans leur rébellion, dans leur péché. Les prisons sont pleines de voleurs, de meurtriers qui ne sont pas repentants, mais alors pleines. Ils sont tous innocents dans ces prisons. C'est rare ceux qui reconnaissent vraiment leur faute et qui font face à leur meurtre. Et puis, la Bible annonce que plus le temps va passer, plus les hommes vont rejeter les témoins de Dieu. Et dans l'Apocalypse, ça va être un rejet très fort, puisque je lis au chapitre 11, verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. » Il y aura donc deux témoins envoyés par Dieu à Jérusalem, revêtus de sacs, et ils prophétiseront pendant 1260 jours. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire l'Antéchrist, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Comment ces deux prophètes vont tourmenter les habitants de la terre? En leur disant la vérité, en leur annonçant que Dieu est vivant et le jugement de Dieu. Et les gens ne voudront pas entendre ce message, dire non, 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 arrêtez. Et quand l'Antéchrist va leur faire la guerre et les tuer, et ce sera vu à la télévision par le monde entier, les gens vont se réjouir et s'offrir des cadeaux, ça va être un second Noël. Hein. On va s'offrir des cadeaux comme à Noël. Fêtons la victoire, les témoins sont morts, ils sont terminés, ils sont fichus. Il y avait des personnes à l'extérieur, je ne sais pas si vous les rentrez, mais il faudrait être attentif. Voilà. Ils regardaient avec attention. Et donc, il y aura cet endurcissement, cette haine des témoins de Dieu, cette haine pour la vérité. Et ils persécuteront tous ceux qui sont fidèles à Dieu. En Apocalypse chapitre 13, je lis... Il fut donné à l'Antéchrist de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire aux croyants, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire qu'à la fin du monde, une majorité de gens vont adorer l'ennemi de Dieu, l'antéchrist, le faux Christ. Et ils vont prendre plaisir au massacre des croyants, des chrétiens, des fidèles, parce qu'ils seront complètement emportés loin de la vérité. Alors la Bible décrit-elle la fin du monde en tant que telle? Donne-t-elle des détails? Comment le monde va-t-il finir? Eh bien oui, la Bible l'explique et donne des détails. Elle dit que le monde sera détruit par le feu. En 2 Pierre 3, verset 10, je lis ceci. Le jour du Seigneur, et quand vous voyez ça dans votre Bible, le jour du Seigneur, ça veut dire c'est le jour du jugement, la fin du monde. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire tout le monde sera surpris. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Je lis aussi dans le prophète Ésaïe, chapitre 51, verset 6. « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin, dit l'Éternel. » Et puis dans l'Apocalypse 21, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Qu'est-ce que la Bible nous annonce là? C'est qu'il va y avoir un jour du jugement de Dieu où notre système solaire, et peut-être même notre univers, va être consumé, va disparaître, brûlé absolument par un feu total, le feu venant de Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur la phrase de l'apôtre Pierre. Il dit « Les éléments embrasés se dissoudront ». Cette idée de se dissoudre, c'est intéressant parce que dans la Bible, il est dit que toutes choses dans l'univers sont maintenues par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu. En fait, si l'univers est en place, si le système solaire est en place, si nous sommes en place, c'est parce que Dieu nous tient en place, nous soutient même. Et les physiciens l'ont découvert lorsqu'ils ont découvert l'atome. Ils ont découvert que nous sommes pleins de vide, que les murs sont pleins de vide, mais ce qui fait que les murs sont durs et que nous sommes solides, c'est que les atomes qui nous composent sont reliés entre eux par une énergie qui les tient ensemble. Si cette énergie, par exemple, était retirée de mon corps, toutes mes molécules, mes atomes, s'éparpilleraient dans l'air. Je serais comme si je devenais de la poussière et plouf, je disparaîtrais dans l'instant. Parce que mes atomes sont retenus par une énergie invisible. Et c'est pareil pour toute la matière et tout l'univers. Le jour où Dieu retire cette énergie, il dit stop, l'univers implosera, se dissoudra dans le feu et disparaîtra à jamais. Heureusement, la Bible dit que Dieu va recréer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais notre terre est promise à un jugement par le feu, une destruction totale. Les astronomes, eux, prédisent la fin de notre terre lorsque le soleil sera en fin de vie. Ils prédisent que dans de nombreux millions d'années, le soleil sera au bout de son énergie, de ses gaz, et qu'il va commencer à enfler, et à un certain moment, il va détruire la Terre, et lui-même explosera, et le système solaire explosera avec. Mais soit que Dieu accélère ce phénomène, soit que Dieu fasse autrement, il est clair que notre monde va avoir une fin, et cette fin sera par le feu. Et l'apôtre Pierre dit, de la même façon que le monde d'avant a péri sous l'eau par le déluge, notre monde actuel périra par le feu. C'est un avertissement solennel de Dieu et de l'Écriture. il y aura une fin du monde, il y aura un jugement final, il y aura une destruction de notre terre. Nous n'allons pas vivre éternellement comme ça dans ce monde. Et quelque part, je dis tant mieux, vu l'état de corruption de notre monde. Heureusement qu'il y aura une fin. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le déluge ? Parce que l'humanité était arrivée à un tel état de violence et de corruption que Dieu s'est dit, ça y est, ma création va être complètement fichue, corrompue, et le Messie ne pourra pas venir. Alors, il a envoyé le déluge et seul Noé et sa famille, qui étaient fidèles, qui avaient la foi, ont été sauvés. Il a pu recommencer l'humanité correctement. De la même façon, Dieu va devoir détruire à nouveau la terre, mais cette fois-ci complètement par le feu. La Bible donne-t-elle une date de la fin du monde? Alors, on entend beaucoup parler de dates. On entend parler du 21 décembre 2012. Il y a des chrétiens qui ont donné des dates depuis assez longtemps, depuis qu'Israël est revenu dans son pays. Certains disent c'est 40 ans après qu'il soit revenu, d'autres non, c'est 50 ans, d'autres non, c'est tant, etc. Et tous les quelques, il y a un chrétien qui donne une date de la fin du monde ou du retour de Jésus-Christ, et tous les quelques, il se trompe. Et tous les quelques, il porte préjudice aux autres chrétiens. Il porte préjudice à la parole de Dieu qui ne donne pas de date, justement. Jésus lui-même l'a déclaré en Matthieu 24, 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » C'est le Seigneur qui un jour décidera. Il a bien sûr déjà décidé, mais il mettra le point final à notre création. Néanmoins, la Bible, si elle ne donne pas le jour et l'heure, elle donne des éléments pour désigner l'époque de ces choses. Elle donne une chronologie, elle donne des repères importants. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le compte à rebours a commencé depuis un bon moment, puisque la Bible dit que la première venue de Jésus-Christ a commencé la fin des temps. Si je lis l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 20, il est dit que Christ a été prédestiné avant la fondation du monde, donc que Dieu avait prévu qu'il viendrait avant même de créer le monde, et manifesté à la fin des temps. La manifestation de Jésus-Christ a commencé la fin du monde. Ça fait 2000 ans que c'est la fin. Et nous approchons donc de la fin de la fin. Alors, 2000 ans, on peut dire, mais c'est énorme, vous vous rendez compte, Dieu dit, voilà, c'est la fin, et puis il reste 2000 ans. Mais la Bible dit bien que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Pour Dieu, ça fait 2 jours que Jésus-Christ est venu. 2 jours, c'est pas très long. On ne sait pas combien il va attendre encore, mais la Bible dit que Dieu patiente pour laisser aux hommes le temps de se repentir. J'aimerais vous résumer le plan de Dieu à travers les âges maintenant pour vous expliquer pourquoi il va y avoir une fin du monde. Parce que c'est cohérent avec tout le plan de Dieu. Lorsque Dieu a créé la terre, il y a placé l'homme, son chef-d'œuvre, pour qu'il vive en communion avec lui et qu'il règne sur cette terre qui lui était confiée. L'homme n'a pas obéit longtemps, puisque Satan, qui s'était révolté parmi les anges, est venu le tenter de se révolter lui aussi contre son Créateur. Adam et Ève ont obéi à Satan, et ils sont donc tombés dans le péché, la rébellion, dans la mort. La malédiction est venue sur toute la création, sur toute la terre, et qui est devenu le prince de ce monde ? Ce n'était plus l'homme, c'était Satan, le diable. L'ange déchu, l'ange rebelles. Mais l'Éternel n'est jamais, bien sûr, dépassé ou pris à court. Il avait prédestiné tout cela avant la fondation du monde, que Christ viendrait sauver l'humanité, qu'il enverrait le Sauveur, qui viendrait lui-même d'ailleurs, s'incarner pour sauver les hommes de ce péché, de cette tentation et de cette malédiction. C'est ce qu'on appelle le Messie, loin de Dieu, celui qui sauve l'humanité. Mais Satan chercha à corrompre la race humaine pour que le Messie ne puisse pas venir. Il a failli réussir. Heureusement, le déluge a mis fin à ses plans machiavéliques. Après le déluge, Dieu a mis son œil et sa main sur un peuple, les descendants d'Abraham et ensuite de Jacob, le peuple d'Israël. Il a décrété que de ce peuple viendrait le Messie. Et il a préservé ce peuple, pourtant tout petit et très attaqué, pour que, il y a 2000 ans de cela, Jésus vienne naître à Bethléem en tant que Messie et Sauveur. Jésus est donc né à la fin des temps, dans le plan de Dieu, c'était la fin de son plan. Il est venu pour non seulement payer notre dette par son sacrifice et nous racheter si l'on croit en lui, mais il est venu aussi reprendre à Satan le règne sur la terre. Reprendre au prince de ce monde le règne de la terre. Et en Jésus-Christ, un jour, nous régnerons avec Christ sur la terre. Finalement, Satan, avant d'être définitivement éliminé et jeté dans l'étang de feu, comme le dit l'Apocalypse, va faire une dernière tentative de corrompre la race humaine. Il va susciter son chef-d'œuvre lui aussi, sa création, l'Antéchrist. L'Antéchrist sera possédé par Satan. Il sera la trinité satanique, Satan étant le Père, l'Antéchrist étant le Fils, et le faux prophète de l'Apocalypse étant le Saint-Esprit. Et avec cette trinité, il va essayer de séduire, et il va arriver à séduire beaucoup de monde à la fin des temps. Mais finalement, Christ reviendra arrêter à nouveau cette corruption, il détruira l'Antéchrist, il détruira Satan, il les jettera pour l'éternité dans les temps de feu, et il refera le monde avec ceux qui ont cru en lui. Le prophète Daniel est très important concernant la fin des temps et la fin du monde. Il donne des éléments chronologiques aussi. Il nous dit, au chapitre 8 de son livre, « L'ange me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Et là, l'ange lui explique des choses. Il y a un temps marqué pour la fin. Il lui explique qu'il va y avoir une succession d'empires. L'empire babylonien d'abord, et puis ensuite les Mèdes et les Perses, ensuite Javan. Javan, ça voulait dire l'empire grec. Et enfin, un quatrième empire terrible, l'empire romain. Cet empire, notamment en Daniel chapitre 7, est décrit se divisant en 10 royaumes, 10 rois. Et parmi ces 10 rois, il y en a un qui va sortir et dominer sur les autres. Je lis en Daniel 7, 24, « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, l'Empire romain. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il en abaissera 3. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. » Juste pour expliquer en détail, un temps, des temps et la moitié d'un temps, cela fait allusion à la fameuse tribulation prophétisée dans l'Apocalypse qui durera 3 ans et demi. Un temps plus 2 temps, ça fait 3 temps, et la moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi. Parce que pendant 3 ans et demi, l'Antéchrist va régner sur la terre. On peut dire, c'est pas beaucoup, 3 ans et demi. Mais quand vous êtes dans une dictature, c'est très très long. Surtout que c'est une dictature mondiale cette fois-ci. Et donc, Daniel dit qu'il va y avoir 4 royaumes, et ça fait bien longtemps que l'Empire romain a commencé. Mais il nous dit que l'Empire romain, en fait, ne va jamais s'arrêter et qu'il va s'affaiblir, il va devenir 10 royaumes qui seront mélangés d'argile et de fer, c'est-à-dire fragiles, mêlés par des alliances humaines. Or, si aujourd'hui vous regardez quel empire est constitué d'alliances humaines, il n'y en a qu'un qui correspond, c'est l'Europe, la communauté européenne. Pendant longtemps, la communauté européenne, c'était en fait un empire qui était unifié par la guerre. Que ce soit Charlemagne ou Napoléon, c'est par des guerres qu'ils ont essayé d'amasser des pays pour faire un empire romain reconstitué. Mais la communauté européenne, depuis 1948, a cette particularité qu'elle est née d'alliances humaines, sans guerre. Bien sûr, les deux guerres mondiales ont certainement joué pour influencer la naissance de la communauté européenne. Mais c'est vraiment en 1948, donc après la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont commencé à nouer des alliances, à faire des contrats, à dire oh, on va s'allier, on va faire ci avec cela. Mais ce qu'on voit, c'est que ces alliances sont très fragiles, de plus en plus fragiles d'ailleurs. S'il n'y avait pas la France et l'Allemagne, l'Europe n'existerait pas. Et encore, les deux pays sont tout à fait presque opposés, hein, la France et l'Allemagne, dans leur vision des choses. Et donc, Daniel annonce qu'un jour, cet empire romain, il y aura 10 nations, et à sa tête viendra l'Antéchrist. Et là, ce sera le signe de la fin, parce que cet Antéchrist va commencer à opprimer les Juifs et les chrétiens. Il va se faire adorer comme Dieu, il va séduire par des faux miracles et il va se faire passer pour le Messie lui-même. Il va dire, c'est moi le Messie, c'est moi le Christ que vous attendez. Adorez-moi, vénérez-moi. Il va aller à Jérusalem, dans le temple, il va demander qu'on adore son image. Il aura un faux prophète qui lui fera beaucoup de publicité mondiale. Et finalement, lorsqu'il aura pris par séduction les âmes d'une majorité, il instaurera sa dictature. On ne pourra plus ni acheter ni vendre sans porter sa marque. On ne pourra plus confesser le nom de Jésus-Christ. On ne pourra plus être juif sans être poursuivi de sa haine. Mais ça ne nous dit pas quand tout cela va arriver. Simplement, la Bible nous donne des signes. Le premier signe, c'est la terre d'Israël. Bien sûr, la renaissance d'Israël en 1948. Il faut reconnaître que c'était un miracle extraordinaire. Qu'une nation ait été dépaysée, ait été emmenée loin de son pays pendant tant de temps. Puisqu'il y avait des Juifs au temps de Jésus, mais en l'an 70, les Romains ont décidé d'extirper les Juifs d'Israël. Ils les ont massacrés, ils ont détruit tout à Jérusalem, tout brûlé, même le temple. Ils ont détruit des centaines de milliers de Juifs dans tout Israël et ceux qui restaient, ils les ont déportés. Et c'est vers l'an 100 que les Romains ont appelé Israël la Palestine, ce qui signifie la terre des Philistins. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Pour dire aux Juifs, ce n'est plus votre terre. Vous êtes dépossédés à jamais, vous n'êtes plus les bienvenus. C'est la terre des Philistins. Et pendant 2000 ans, les Juifs ont été comme ça éparpillés dans les nations. Ils ont perdu leur langue, l'hébreu. Ils ne parlaient plus hébreu. C'est devenu une langue morte qu'on apprenait à l'école comme on apprend le grec ancien. Hein. Et puis, au tournant du XXe siècle, certains Juifs ont dit « il faut revenir ». Il y a une sorte de petite flamme qui s'est rallumée qui ne s'était jamais éteinte. Ils ont dit « il faut revenir ». Et ils ont commencé à venir, un pionnier par-ci, un pionnier par-là. Mais il y avait les Anglais, il y avait les Arabes, il y avait toutes sortes de populations qui s'y opposaient. Et c'est finalement Hitler qui a aidé les Juifs en les massacrant. Bien sûr, il a failli tous les tuer puisqu'il a tué environ 6 millions de Juifs. Il a failli vaincre. Mais Dieu ne l'a pas permis et les survivants ont obtenu le droit de retourner dans leur terre. Parce qu'on a cherché pour les Juifs une terre où ils pourraient être à l'abri justement de l'antisémitisme. Et plusieurs pays ont été nommés hein, après la guerre. Et finalement on est revenu sur la terre d'Israël. Et pourquoi pas Israël? Les Anglais ont rechigné, mais il y a eu un certain Lord Balfour qui a aidé. Et puis avec plusieurs éléments, circonstances, Israël est redevenu la terre des Juifs. Aujourd'hui, tous les jours, des dizaines de Juifs rentrent, hein, ils font leur aliyah, comme on dit. Ils viennent de tous les pays, et même s'ils sont totalement assimilés dans leur pays, ils redeviennent Juifs, Israéliens. Leur terre les accueille à nouveau. Ce miracle est un signe de la fin des temps, parce que la fin du monde parle beaucoup d'Israël, de Jérusalem. Le Christ va revenir à Jérusalem, l'Antéchrist va vouloir tuer les Juifs, il va être particulièrement antisémite. Donc Israël redevient le centre de l'actualité, on parle tout le temps d'Israël. Au Moyen-Orient, on dit « si il n'y avait pas Israël, il y aurait la paix ». C'est un mensonge, mais c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et donc Israël est tout le temps le coupable, désigné comme coupable. Mais ça, c'est un signe que nous sommes à la fin. Un autre signe, c'est la mondialisation. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, il est écrit qu'il lui fut donné au faux prophète d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Lorsque Jean a écrit ces mots, il n'y avait rien qui puisse animer l'image de quelqu'un. Il n'y avait aucune technique, technologie par laquelle on pouvait animer une image. Il y avait le théâtre, mais c'était des acteurs. Là, il parle de quelque chose qui nécessite une révolution technologique, qui s'appelle la télévision. Pour qu'une image soit animée, qu'elle soit vue par le monde entier, il faut la télévision. Et pour que la télévision et que tout soit vu, il faut une mondialisation aussi, hein, qu'on soit tous au même niveau. Et la mondialisation est en marche depuis bien longtemps maintenant. Et même s'il y a des différences de culture entre les pays, que vous alliez à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que vous alliez au Sri Lanka, en Indonésie, à New York ou à Londres, vous avez sensiblement la même culture, les mêmes goûts. On porte les mêmes baskets, les mêmes marques de montres, jeux vidéo. Il y a une uniformisation des êtres humains sur la Terre. Cette uniformisation a fait augmenter la richesse moyenne de tout le monde, mais en fait est en train de nous préparer à la venue de l'Antéchrist. Il est dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête. Apocalypse chapitre 13. Ça décrit une dictature économique et une mondialisation des échanges, puisque pour acheter ou vendre, il faut rapporter une marque, et tout se prépare avec les puces RFID, avec vraiment la miniaturisation. On va commencer maintenant à payer avec son portable. Ça a déjà commencé dans certains endroits. Et donc, on aura tout dans le portable ou dans un objet. En tout cas, on va centraliser tout et tout le monde sera fiché. Personne ne pourra bouger le petit doigt sans qu'on sache ce qu'il fait. Nous sommes arrivés à ce point qui prépare la venue de l'Antéchrist et donc nous sommes à la fin de la fin. En Matthieu chapitre 24, Jésus fait toute une description parce qu'on lui pose la question « Mais quand viendra la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement ?» Alors là, c'est la question qu'on se pose tous. Hein. Et bien sûr, les apôtres ont été les premiers à lui poser cette question. Et Jésus donne une série de signes et il dit « Ce sera le commencement des douleurs. » Et c'est intéressant cette image parce qu'elle fait allusion à une femme enceinte. Lorsqu'une femme arrive au terme de sa grossesse, les contractions commencent petit à petit, puis s'accélèrent jusqu'au moment vraiment de la naissance où elles deviennent très douloureuses, très très douloureuses. Et Jésus décrit la fin du monde comme une série de contractions. Il dit les contractions vont commencer, et puis elles vont s'accélérer, et elles vont devenir insupportables, et là ce sera la fin de la fin. Ce sera mon retour. Quelles contractions annonce-t-il. Il dit qu'il y aura des guerres, nation contre nation. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu des guerres, Mais il y a toujours beaucoup de guerres aujourd'hui. Nous sommes en guerre, particulièrement nous, en Afghanistan. Nous avons été en guerre en Libye, alors que la France est quand même un pays qui n'était pas en guerre hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais on est en guerre, enfin il y a eu la guerre d'Algérie, bien sûr, mais on est une époque où on parle que de paix, où on ne se rend pas compte ce que c'est vraiment la guerre, on voit ça à la télévision. Mais la guerre est très présente et elle va augmenter. Il y a des guerres ethniques aussi en Afrique. L'unité africaine a complètement explosé. Et ça nous paraît loin, sauf quand on va là-bas en touriste, hein. Mais l'islam est en train de faire exploser l'Afrique. Les tribus sont en train de se haïr les unes, les ethnies, parce que toutes les frontières des pays d'Afrique sont totalement artificielles. Ce sont les Occidentaux qui ont fait tous ces pays-là, qui ont créé ces frontières et ces pays. Et ils n'ont pas cherché à faire par ethnie, hein. Ils ont fait comme ça, avec les rivières ou les montagnes ou avec ce qui les arrangeait. Et aujourd'hui, tout ça est en train d'exploser et il y a des guerres sans fin entre Africains. Les pays de l'Est aussi, l'Iran qui s'arme pour la guerre, le Moyen-Orient va un jour exploser aussi, mais avec des bombes atomiques, c'est ça qui est terrible, hein, des missiles et des armes atomiques. Jésus annonce aussi les famines, il y aura beaucoup de famines. Savez-vous que 24 000 personnes meurent chaque jour dans le monde de malnutrition? 24 000. On a assez à manger pour tout le monde. Comment se fait-il que 24 000 meurent encore chaque jour? C'est l'égoïsme, la corruption des États. Des fois, c'est des famines volontairement entretenues par certains politiciens. En 2010, j'ai les chiffres des Nations Unies, il y avait 925 millions d'êtres humains qui ne mangeaient pas à leur faim, c'est-à-dire 13% de la population mondiale. L'année en 2010, c'est énorme, 13%. Jésus annonce des tremblements de terre. Alors là aussi, on dit, mais il y a toujours eu des tremblements de terre. Mais encore une fois, les sismologues disent qu'il y a une augmentation. J'ai trouvé des chiffres officiels des études géologiques américaines. En l'an 2000, il y a eu 9 500 tremblements de terre sur l'échelle 4 à l'échelle maximale 9,9. Donc, il y a eu 9 500 tremblements de terre entre 4 et 9,9 selon l'échelle de Richter. En 2011, donc l'année dernière, il y a eu 15 657 tremblements de terre, c'est-à-dire une augmentation de 64% entre 2000 et 2011. Il y a une recrudescence de tremblements de terre, la Terre est en train de bouger et on craint le Big Crunch, hein, la Terre qui va s'ouvrir en Californie, parce que le jour où ça va arriver, ça va être terrible. Jésus annonce aussi qu'on va mettre à mort les croyants, la persécution des Juifs et des chrétiens. Cette persécution augmente d'année en année. Nous avons les statistiques de la mission Portes Ouvertes qui dit chaque année, il y a de plus en plus de chrétiens interdits, enfermés, tués, battus pour leur foi chrétienne. Sans parler de l'antisémitisme envers les juifs qui augmente, surtout chez les musulmans, et qui se répand partout, hein. On aime bien haïr les juifs, comme on dit. Jésus parle aussi beaucoup de faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Et la Bible annonce toujours, il y aura des séductions spirituelles. Et les sectes n'ont pas cessé de prospérer, de se multiplier. Mais il dit aussi, toujours dans Matthieu 24, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et malgré tout ce que je vous ai dit, la Bible est le livre le plus imprimé, le plus traduit, le plus diffusé dans le monde. Nous avons cette Bible à 1,50 € en France, qui a été vendue par les grands distributeurs, que ce soit la Fnac ou dans certains supermarchés, et qui s'est très très bien vendue. Les gens l'ont achetée par milliers. Ça veut dire qu'en France, il y a encore des gens qui veulent lire la Bible et la connaître. L'Alliance biblique universelle a diffusé en 2005 plus de 24 millions de Bibles complètes dans le monde, c'est-à-dire une toutes les 2 secondes. La Bible est traduite en plus de 2500 langues sur 6600 langues et dialectes. Et tout cela ne fait que progresser. Il y a des missions qui ont pour travail de traduire la Bible pour que tous aient le texte dans leur propre dialecte. Voilà les signes de la fin du monde qui nous montrent que nous sommes près du signal final. Notre monde est mûr pour un antéchrist, notre monde est mûr pour le retour de Jésus-Christ. Ce que les chrétiens attendent, ce n'est pas l'antéchrist. Ce que les chrétiens attendent, c'est Christ qui viendra les prendre. Ils attendent la victoire. Mais maintenant, vous allez me dire, moi je ne suis pas forcément chrétien. Que dois-je faire pour me préparer à la fin du monde? Que dois-je faire? La première chose que dit la Bible, c'est qu'il faut choisir son camp. Apocalypse 22, verset 11, nous dit ceci. C'est un avertissement. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'est-ce que veut dire cet avertissement? C'est qu'il va y avoir une dissociation de plus en plus grande entre les injustes et les justes, entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Et il va falloir vite choisir son camp. Si vous dites, moi je veux rester neutre, moi je n'ai rien contre Dieu, mais je ne l'aime pas spécialement non plus, vous ne pourrez pas rester neutre. Vous serez emporté dans les ténèbres avec les autres. Il faut choisir son camp. Dès maintenant. La deuxième chose, bien sûr, c'est qu'il faut se tourner vers votre Créateur. Son plan admirable, c'est que le plus d'êtres humains possible viennent avec lui dans l'éternité, dans la Jérusalem céleste, dans la nouvelle terre qu'il a préparée. C'est ça son plan. Dieu aime tous les hommes. Et comment a-t-il fait pour que tous les hommes aient une chance? Il est venu lui-même en la personne de Christ, mourir pour les péchés de tous les hommes. Chaque être humain sur la terre peut être sauvé en se repentant de ses péchés et en demandant à Jésus-Christ de le sauver. Et c'est quelque chose qui est quand même assez simple de croire, de mettre sa foi, de dire « Seigneur, pardonne-moi et entre dans ma vie ». Dieu ne demande pas de faire trois fois le tour de la terre en patin, en roulette ou à genoux. Il dit non, repentez-vous et croyez. Donc voilà comment on peut se préparer à la fin du monde. Parce que même si on ne voit pas de notre vivant la fin du monde, nous allons mourir. Et la Bible parle qu'après la mort, il y a le jugement aussi. Les morts seront jugés. Parce qu'on se dit, mais moi, je ne verrai pas la fin du monde puisque je serai mort. Mais dans l'Apocalypse, vous voyez que les morts ressuscitent pour le jugement. Ils vont comparaître devant Dieu aussi, les morts. La mer va rendre les morts qui étaient en elle. Le séjour des morts va rendre les morts qui étaient en lui. Et tout ce monde-là sera jugé. Et si vous n'avez pas cru en l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, si votre nom n'est pas dans le livre de vie, vous irez avec Satan et avec l'Antéchrist dans les temps de feu. C'est quelque chose d'horrible. Mais Dieu a tout fait pour que vous ayez la possibilité d'être sauvé. Ce salut est disponible maintenant, il est gratuit par la foi. Nous n'allons pas pouvoir changer le cours des choses. Jésus, dans Matthieu 24, dit « Il faut que ces choses arrivent ». Mais on ne doit pas être fataliste pour autant. On ne doit pas dire « Ah ben, de toute façon, voilà, le monde va ». Non, la prière, de prêcher la bonne nouvelle, d'être sobre dans ce monde décadent, d'être pur dans ce monde impur. Tout ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et en tant que chrétien, on ne doit pas se laisser aller en disant « Le bateau coule, alors coulons avec le bateau ». Non, le bateau coule, mais nous allons sauver un maximum de gens de ce bateau. On va certainement entendre bientôt des histoires du Concordia, hein, de certaines personnes qui ont sauvé des enfants, sauvé plusieurs, hein, qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres. Ça a été le cas sur le Titanic. Eh bien, nous sommes sur le Titanic et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à sauver beaucoup de gens avant que le bateau sombre corps et biens. Et le Seigneur est avec nous dans cette tâche parce que c'est sa volonté que tous, qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Merci de votre attention. Voilà, j'ai parlé 54 minutes. C'était vraiment plus long.